Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Gérard Duménil, chercheur au CNRS. Alors, il y a quelque temps, j'étais allé voir Gérard Duménil chez lui pour lui demander si le libéralisme mis en œuvre avait déjà existé avant la phase néolibérale que nous connaissons. Vous avez peut-être écouté cette émission, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site internet de Des Sous et des Hommes, www.dessousetdeshommes.org, c'est l'émission 128. Alors, ceux qui sont attentifs aux émissions de Des Sous s'apercevront assez aisément qu'en réalité, j'ai une grande admiration pour Gérard Duménil. C'était pas manifeste jusqu'à présent parce que je l'admirais tellement que j'osais même pas aller le voir. Mais je pense vraiment que parmi les émissions majeures du site que vous pouvez retrouver sur le site de Des Sous, il y a celles qui ont pour numéro le 69, le 70 et le 71 qui expliquent ce qui s'est passé au tournant des années 70-80 au moment où le néolibéralisme s'est mis en place après une période de crise. Gérard Duménil a écrit un livre avec Dominique Lévy qui s'appelle Crise et sortie de crise. C'est publié aux éditions PUF et c'est absolument majeur. Je ne peux que vous en conseiller la lecture, même si c'est un brin difficile. Enfin, quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, je suis allée voir Gérard Duménil il y a quelques temps et j'en ai profité pour lui poser une petite question qui me taraudait parce que j'écoutais la radio, je lisais les journaux, mais on me disait des choses, je ne comprenais pas. Donc voici la question que je vais poser. Quand j'écoute les médias, j'ai l'impression que j'ai une sorte d'injonction au fait de me réjouir du fait qu'un certain nombre de grandes entreprises françaises aient réussi à décrocher des marchés dans des pays tiers et en particulier du tiers-monde, du type un contrat d'eau, d'électricité, ce genre de choses-là. Or, je ne vois pas du tout en quoi cela peut apporter quelque chose aux Français de base, on pourrait dire, à vous et moi.
Bien, alors écoutez. D'abord, il faut dire que c'est un grand débat historique, hein, parce que ce dont on est en train de parler là, c'est la puissance française, qu'on peut qualifier en l'occurrence d'impérialiste. Hein. Impérialiste veut dire aller chercher, à travers des méthodes qui sont des méthodes violentes, qu'il s'agisse de la violence économique pure et simple, ou de la violence directe, comme la corruption, la subversion, etc., d'aller chercher des revenus du capital, hein, essentiellement, dans le reste du monde, dans une périphérie, disons, par rapport au pays impérialiste. Donc c'est ça dont on parle. Et la question qui est posée, c'est « Ah oui, mais la population française va bénéficier de ça, parce qu'on aura des bons capitalistes, on aura des bonnes entreprises puissantes, et donc il va y avoir des retombées. » Alors ça, c'est quelque chose qui a été très discuté historiquement, pour savoir si effectivement, eh bien, les classes populaires du centre allaient bénéficier des avancées de leur classe dominante et de leurs grandes entreprises dans le monde qui auraient des retombées. Hein. Et même dans le débat politique, la question était posée de la façon suivante, est-ce que finalement, à travers ces supposées retombées, eh bien, elles ne se trouvent pas corrompues du point de vue de leur capacité de lutte politique, parce que, comme ils vivent bien, entre guillemets, et entre parenthèses, ça dépend de qui, hein, ça dépend de qui on parle, bon, eh bien, elles vont se trouver corrompues par ça, donc elles sont à l'aide de cette domination de l'étranger, enfin de pays moins avancés, eh bien, les classes dirigeantes des pays du centre auraient la capacité de faire vivre mieux leur couche populaire, et donc ces couches populaires ne percevraient plus leur position de classe exploitée, etc. Enfin voilà, ça a été un débat dans l'extrême gauche, disons, dans la gauche révolutionnaire, qui a été un débat extrêmement important. Donc le problème est posé. Hein. Alors, il ne faut pas nier que, oui, peut-être, d'une certaine façon, les couches populaires, dans un sens, vont tirer certains avantages de cette domination. Je vais prendre un exemple. Hein, eh bien, je ne sais pas, tout le monde connaît la marque Gap. Hein. Eh bien, la marque Gap, elle fait fabriquer ses chemises au Guatemala. J'aime bien aller au Guatemala. Hein. Et là, il y a dans ce qu'on appelle la maquiladora, hein, c'est-à-dire ces usines horribles où sont exécutés des travaux qui sont en général des travaux simples, hein, qui ne qui ne mettent pas en jeu, les technologies fondamentales pour des salaires de misère que je ne vous décris pas. Elles sont là en train de fabriquer des chemises. Bon. Alors ensuite, ces chemises, elles arrivent dans nos pays. Alors c'est formidable parce qu'on peut se payer une nouvelle chemise et c'est pas cher. Hein. Donc, bien, on bénéficie finalement des conditions d'exploitation de ces femmes. Hein, parce qu'elles travaillent pour des salaires ridicules. Voilà. Donc, quels que soient les profits qui sont faits entre les deux par ces sociétés, elles ont quand même la capacité d'arriver à Boston. Je dis ça parce qu'il y a eu un mouvement d'opposition aux États-Unis contre Gap, justement, qui était beaucoup centré à Boston. Elles arrivent là, on a ça superbe dans les boutiques et les gens achètent ça pour quelques dollars. Voilà, bon, c'est pareil en France. Alors d'un certain point de vue, on en bénéficie. Alors le système capitaliste, évidemment, en bénéficie parce que le problème, c'est celui de la négociation salariale. Les salaires réels sont bloqués, disons, dans le néolibéralisme. Alors si on arrive à fabriquer des chemises qui sont pas chères comme ça, c'est bien, évidemment, pour les couches qui vivent des profits du capital parce que ça leur permet de maintenir, entre guillemets, le niveau de vie, hein. Mais en même temps, ça se fait dans des conditions de plus en plus avantageuses, donc c'est très bien pour la rentabilité du capital, disons. De l'autre côté, c'est facile à comprendre. Hein. Alors historiquement, oui, peut-être dans les périodes d'années de l'après-guerre, la population française a pu bénéficier d'une certaine façon des conditions d'exploitation dans le reste du monde, donc il n'y a pas à nier ça. Bon. Ça, c'est le premier point. Donc, est-ce que c'est bon pour nous que nos entreprises fassent bien? Selon votre question, réponse... peut-être dans une certaine mesure, oui, il peut y avoir certaines retombées de ce type, mais il faut bien comprendre qu'elles s'insèrent dans un cadre de fonctionnement beaucoup plus général du système où on retrouve tous les rapports de domination qu'on veut. Bon, mais il faut quand même dire ceci, si j'ai... c'est que nous entrons actuellement dans une nouvelle phase aussi du capitalisme de ce point de vue-là. Hein. Et que, bien entendu, le grand enjeu maintenant, c'est la mise en concurrence des travailleurs du centre et de la périphérie. Hein. Et donc toujours la menace, pas simplement de la délocalisation, comme on dit, mais la menace de l'investissement étranger, qui est une réalité. Le travail est cher, on va mettre nos usines en Chine. Pourquoi? Parce qu'un salaire chinois, c'est rien du tout, et en plus, le taux de change de la Chine, il est ridicule, le cinquième de sa valeur. Hein. Donc, une heure de travail chinois pour un Américain, ça va coûter une cigarette ou deux. Donc, il y a une menace qui est utilisée, qui est un chantage, en réalité, par rapport aux classes de ces pays. Donc il y a une tentative actuellement, qui n'est pas simplement une tentative, mais qui est une réalité, d'utiliser cette menace permanente. Il y a une firme aux États-Unis dont le nom ne me vient pas tout de suite, j'ai lu ça il y a une semaine quand j'étais aux États-Unis, qui menace de licencier l'ensemble de son personnel et de le réembaucher à un salaire divisé par 3. Mais c'est sérieux. Hein? Alors, ça n'est pas encore représentatif. Pourquoi? Parce que si vous ne voulez pas ça, nous, on se met ailleurs. Alors, ce chantage dont je donne là un exemple caricatural, il est permanent et il est partout. Donc, il y a une espèce de polarisation. Et je pense que, finalement, quand on dit qu'actuellement, dans le mouvement altermondialiste, il y a une espèce d'internationalisme qui se développe, on n'est plus au temps où, qui, vous savez, disait « produisons français ». Hein, c'est plus ça maintenant l'opposition au capitalisme à échelle mondiale et c'est un très grand progrès. Donc il y a un sentiment de solidarité d'une certaine façon qui se développe. Et je crois que plus ce mouvement s'affirme historiquement, c'est-à-dire cette espèce de mise en concurrence, il est très important évidemment que les couches qui sont prises dans cette espèce de mâchoire, qui sont broyées dans cette mâchoire, ne se cabrent pas dans un réflexe nationaliste pour dire « Ah non, 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 c'est nous, non, 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 c'est nous, etc. » mais comprennent bien qu'ils sont pris dans une machine avec un système de chantage qui les met en concurrence, évidemment, avec les travailleurs des autres pays. Et finalement, quelle est la logique de ça? Eh bien, c'est l'amoindrissement des conditions de vie, la détérioration des conditions de vie de tout le monde. Hein. Écoutez, là, j'ai dit tout à l'heure, peut-être dans l'émission précédente, que je travaillais sur l'Argentine. Mais vous comprenez bien que c'est terrible, je pourrais vous montrer les courbes, hein. Eh bien vous voyez que dans les années 90, les salaires réels sont revenus au niveau des années 50. Et dans la crise qui a eu lieu, l'effondrement, ça a commencé en 98, mais l'effondrement en 2001, et bien maintenant ils sont encore plus bas, ils sont au niveau de 45, en termes de pouvoir d'achat, vous comprenez bien. Eh bien cette histoire-là, si nous ne sommes pas capables de nous battre, ça nous pend au bout du nez.
Hein? C'est ainsi, c'est la logique du système. Évidemment, dans un pays comme celui-là, ça revêt des formes qui, pour nous, sont jugées caricaturales. Parce que qu'est-ce qu'on a en France ? Évidemment, c'est toujours plus compliqué, mais considérant les choses assez globalement, on a l'impression d'une stagnation, disons, des pouvoirs d'achat, plus ou moins, plus les attaques contre les systèmes de progression, etc. Mais la logique actuellement qui se met en place à échelle mondiale, à travers ce gigantesque chantage, qui est transformé bien entendu en réalité, c'est une logique d'étouffement constamment. Et on dit, mais c'est pas possible. Ben oui, c'est peut-être pas encore possible chez nous, mais dans le reste du monde, et dans l'ensemble, j'ai donné l'exemple de l'Argentine, et dans l'ensemble du monde, ça se fait. Alors attention, parce qu'on ne sait jamais. Et aux États-Unis, il y a des menaces très sérieuses, c'est commencé. Le niveau des salaires réels d'un travailleur dit de production dans ce pays, il est actuellement au niveau de 1970. Vous voyez ? Alors, évidemment, les hauts salaires, eux, ils sont hauts. Bon, ils ont continué à progresser, je veux dire. Mais pour le travailleur de base, hein, travailleur de production aux États-Unis, ça veut dire 80% pour des travailleurs. Ils sont au niveau de pouvoir d'achat de 70. Nous, en France, on continue à se bercer de cette idée. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Très bien, sauf que ça se fait ailleurs, hein, à des degrés divers. Et dans les pays de la périphérie, eh bien, ça se fait à des degrés qui sont caricaturaux. Donc, faisons attention. Alors, nous bénéficions de l'installation de nos entreprises de flotte dans de certains pays, par exemple, d'Amérique latine. Hein. Bon, eh bien, c'est les gens qui croient ça, et je crois qu'ils s'illusionnent complètement.
Ça tire des plans sociaux sur la comète des redressements qui traînent des charrettes de licenciements. Ça fonce sur les autoroutes de l'information pour être à l'heure sur les secteurs en expansion. Les OPA célibataires recherchent des partenaires sociaux, des plus-values, des avantages fiscaux, des baisses de charges sur le salariat, des fusions des trusts, de l'actionnariat. Mais il ne faut surtout pas inquiéter les marchés, ils sont si faibles, si fragiles, si vite effarouchés. Alors ça compresse du personnel pour que les capitaux ne s'envolent à tire-d'aile à la recherche de meilleurs taux. Chip, chip. Et moi, au milieu de ça, je ne suis qu'une ressource humaine. Je m'agite dans tous les sens, je ne sais pas pourquoi, mais je me démène. Aller toujours plus vite, défendre l'esprit d'entreprise. Je brasse du vent, mais on m'invite à dire que tout cela me grise. Cherche des indices boursiers en faisant son petit marché financier. Ouais, ça se tripote, ça boursicote, ça spécule sec, ça s'excite en matant les cours de l'industrie high-tech. Ça brasse des stocks options, des stocks de fonds de pension, toujours prêt à dégainer son portefeuille d'actions. Ça maîtrise les coûts, les marges bénéficiaires pour se donner rendez-vous sur les places financières. Mais il faut bien renifler l'orientation des marchés pour espérer dénicher des richesses cachées. Un petit pays qu'on attrape au lasso et qu'on se privatise avant de lancer l'assaut des crabouillés, c'est de vie. Et moi, au milieu de ça, je ne suis qu'une ressource humaine. Je bosse, je muse, je trime 35 heures par semaine. On voudrait que je me motive pour voir fleurir mon entreprise. Une logique compétitive, il faudrait que ça me grise. Banda, banda, que ça me grise. Ça élabore les stratégies de communication et passe en graphologie les lettres de motivation. Ça recrute des chasseurs de tête pour débusquer la bête qui aura la meilleure force de vente, qui aura le bon profil pour le management. Ça mijote des plans d'accès de retour à l'emploi en faisant un bisou au passage au syndicat. Ça déborde de mauvaise foi, mais ça tient toujours le discours adéquat. Genre il ne faut surtout pas rendre nerveux les marchés, ils ont la gâchette facile, surtout quand ils sont fâchés. Alors ça change tout, ça brade, ça délocalise, ça lâche du mou, ça flexibilise. Et moi, au milieu de ça, je ne suis qu'une ressource humaine et je vais être licencié en fin de semaine. Mais j'ai l'esprit d'initiative, je tripote les charges explosives, voir sauter mon entreprise me grise.
relever de nombreux défis et savoir attirer dans ses métiers de vrais professionnels.
J'ai essayé tous les métiers, restaurateur, cuisinier, j'ai essayé toutes les professions,
facteur,
chauffeur de camion.
Mon patron, il est sympa, il est bon, je le tutoie, il se met
au canot. Parfois
on va à la piscine en maillot et je lui dis, patron, tu es bon.
Mais la sélection est sévère et la vie de château, c'est fini.
Et on a des rapports de franche amitié, sauf qu'il gagne beaucoup et moi pas assez.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de Gérard Duménil, qui est donc chercheur au CNRS. Eh bien, pour une fois, je me disais, tiens, Gérard Duménil n'a pas complètement répondu à ma question. Bah justement, je l'ai relancé.
Finalement, l'exemple que vous avez pris avec GAP en particulier, c'était un bien matériel, des chemises qu'on faisait quelque part, puis qu'on ramenait dans le pays. Ça, j'arrive éventuellement à voir quel intérêt je pourrais en tirer, moi, enfin, d'un certain côté, mon côté... acheteuse, si on peut dire, sinon de mon côté salarié. Mais ce que je n'arrive pas vraiment bien à comprendre, c'est par exemple justement pour ce que vous avez évoqué juste à la fin, c'est pour l'eau. C'est-à-dire que là, ils ne vont pas me rapporter de l'eau. Ici, quel est l'intérêt que Vivendi finalement réussisse à prendre le marché de l'eau dans un pays d'Amérique latine, par exemple? En quoi, moi, je devrais m'en réjouir?
Voilà. Donc là, le seul raisonnement qui pourrait supporter cette idée que ça nous bénéficierait, c'est un raisonnement de retombée. Hein, de retombée. C'est-à-dire que, bon, il y a des profits qui sont faits là-bas, ces profits vont être en grande partie d'ailleurs rapatriés, hein, et donc nous allons bénéficier des retombées. Hein. Et en anglais, littéralement, ça veut, le mot qui est utilisé pour dire ça, ça veut dire dégouliner. Hein. Donc on n'est pas loin de l'eau, c'est-à-dire que nous retomber dessus. Hein. Bon, alors évidemment, voilà, alors ça, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que finalement c'est la logique du système, il y a des gens riches, c'est formidable qu'il y ait des gens riches, comprenez bien, parce que les gens riches, eh ben, ils emploient des femmes de ménage, ils achètent des biens de luxe, alors nous, bon, les gens peuvent trouver un emploi dans une boutique de luxe, etc., heureusement qu'il y a tous ces gens riches, comprenez, bon, enfin, là, il ne faut pas rêver, hein, parce que ça n'a absolument aucun sens. Hein.
L'idée, c'est ça, c'est ces entreprises vont faire des profits, ces profits vont être ensuite distribués sous forme de dividendes,
d'intérêts.
Donc les personnes qui avaient placé leur argent dans Vivendi vont gagner des sous, et comme ils ont gagné des sous, ils vont pouvoir...
La bourse va monter.
Ils vont pouvoir avoir du menu personnel
ils vont surtout pouvoir consommer en général. Hein, j'ai dit domestique parce que c'est un aspect aussi important des choses, mais je veux dire, ils vont pouvoir dépenser, ils vont pouvoir consommer en général. Eh bien, le raisonnement, c'est bien qu'ils consomment, parce que s'ils consomment, ça fait de la demande, donc l'économie va croître. Hein, voilà. Mais ces raisonnements-là, ils ne tiennent pas une minute. Parce que si on veut si on veut que l'argent intervienne à des endroits où cet argent va se transformer en consommation, je dis argent, je devrais dire revenu, va se transformer en consommation, et bien c'est pas dur. Parce qu'évidemment, les plus gros consommateurs, c'est ceux qui ont très peu. Et ça, on le sait très bien. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit de donner à ceux qui ont très peu, là, ils vont consommer. Mais c'est pas ça le problème dans le capitalisme, c'est pas ça du tout le problème. Hein. À part ça. Donc ce sont des raisonnements qui sont complètement, qui ne tiennent pas la route une seconde. Hein.
Auxquels croient cependant des libéraux. Quelle est la logique pour un libéral? Il faut donner de l'argent aux riches pour qu'ils consomment.
Ça, c'est là nous sommes en train de faire un parallèle entre cette idée que des multinationales françaises fortes qui purifient de l'eau quelque part dans le reste du monde, c'est bon pour nous. Bon, et puis cette idée qu'il faut donner de l'argent aux riches. Oui, c'est-à-dire que l'économie dominante, l'idéologie dominante, elle a tout un ensemble de raisonnements. Ce raisonnement des retombées, c'est un raisonnement qu'on trouve partout. En particulier du temps de Reagan aux États-Unis, il y avait partout ce mot dégouliner, voilà. Alors ça va nous dégouliner dessus, hein. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait ces hauts revenus, parce que l'époque de Reagan, c'était ça, c'était le néolibéralisme, très hauts revenus pour les riches, hein. Mais ça va retomber sur les autres. C'est toujours la même idée. Donc qu'est-ce que c'est que cette idée-là? C'est, finalement, les avantages sont dépendants. Il y a une espèce de solidarité, entre guillemets, qui se forme, parce que, bon, alors ils sont très riches, alors c'est bien pour ceux qui sont moins riches qu'ils vont devenir plus riches. Hein. Mais ça, je veux dire, il faut bien comprendre, et l'exemple de l'histoire du néolibéralisme, et l'exemple de la vanité de cette question. Hein. Quand je dis vanité, je suis poli, hein, parce que ça ne tient pas debout une seconde. Hein. Donc, pourquoi? Parce que cela fait 25 ans que les revenus du capital augmentent. En France, par exemple, ça fait 25 ans. Hein. Bon, ça fait 25 ans que les très hauts salaires augmentent. Alors, je ne parle pas des États-Unis, parce que là, c'est véritablement caricatural. Hein.
Bon, la question, et les niveaux de vie? Et les niveaux de vie de base, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils stagnent. Ou bien, comme je le disais, ils dégringolent dans d'autres parties du monde, hein, et pour une très large fraction de la population aux États-Unis. Eh bien, c'est comme ça. Voyez, mais ça, il faut bien comprendre, c'est permanent. C'est comme le néolibéralisme. Globalement, le néolibéralisme a été vendu comme modèle de croissance. Hein, les pays de l'Amérique latine, du reste du monde, ils vont s'ouvrir, ils vont exporter, ils vont ceci, ils vont cela. Ça va être formidable. Réponse, regardez les données. Regardez ce qui se passe. Il n'y a pas à part. Il y a un ou deux pays comme le Chili et encore qui s'en tirent, mais prenons le Mexique, le meilleur, le petit frère des États-Unis, celui qui est venu s'agglutiner comme ça. Eh bien, ils avaient des taux de croissance jusqu'en 80 de 7%. Maintenant, ils ont des taux de croissance de 2% ou de 2,5%. Et puis, alors attention, ne croyez pas que dans les années 90, c'est mieux que dans les années 80. Mais il faut bien comprendre, je veux dire, l'incroyable culot, disons, de propagande. Quand on a un ministre qui vient nous dire il y a du chômage en France parce que les Français veulent pas travailler. Non mais il faut vraiment, ce sont des affirmations éhontées au sens étymologique du terme, impudique, hein, véritablement. Mais c'est ce qu'est la propagande des classes dirigeantes et de leurs représentants. Hein? Parce qu'il suffit de connaître un tout petit peu l'économie, il suffit de connaître un tout petit peu l'histoire sociale pour savoir que c'est complètement faux. Et prenons l'exemple de la France. Eh bien, nous avons le chômage, nous avons une croissance faible, les pouvoirs d'achat ne progressent pas. Mais la réponse est toujours la même. C'est pas parce que le néolibéralisme, c'est pas bien, c'est parce qu'on n'est pas encore assez néolibéral. Comme ils disent certains aux États-Unis, l'extrême droite, la France socialiste. Hein? C'est ce qu'on appelle se foutre du monde. Voilà.
Et oui, c'était donc des sous et des hommes en compagnie de Gérard Duménil. Alors Gérard Duménil, je pense vraiment que c'est un économiste qui n'est pas entendu assez, même peut-être dans les milieux alternatifs. Vous pouvez trouver tous les documents qu'il met à nos dispositions sur le net. Vous tapez Duménil ou Duménil et Lévy dans Google. Vous trouvez ça extrêmement facilement. En tous les cas, ne peux à nouveau que vous conseiller la lecture de Crise et sortie de crise. C'est aux éditions PUF. C'est un livre qui a été écrit à quatre mains donc par Gérard Duménil et Dominique Lévy. Vous pouvez aussi réécouter les émissions que Dessous a fait avec Gérard Duménil sur le site www.dessousetdeshommes.org avec un tiret entre chaque mot. Ce sont les émissions 69, 70, 71 et 128. Voilà, la semaine prochaine, je ne sais pas encore qui nous pourrons écouter. Mais en tous les cas, en attendant, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous écrire aussi à l'YFM 42 rue de Montreuil, 75 011, Paris. Voilà, à la semaine prochaine.